Je tiens tout d'abord à remercier vivement les organisateurs, Laura, Fiona et Adriane, de m'avoir invitée à participer à cette journée d'études autour du sujet de la vérité et du mensonge, si captivant, hein, dont on peut apprécier les richesses depuis le début de la journée. Je vais donc tenter d'apporter très modestement ma pierre à l'édifice en me centrant sur le Quichotte de Cervantes. Mais avant de commencer, il faut avoir en tête les dates de publication du Quichotte de Cervantes. 1605 pour la première partie, 1615 pour la seconde, et j'ajoute également le Quichotte écrit par Alonso Fernández de Avellaneda qui a été publié en 1614 et qui vient donc continuer la première partie de Cervantes avant même qu'il ait publié la seconde. Cervantes a été piqué au vif par cette publication, d'autant que son auteur utilise un pseudonyme et n'hésite pas à le critiquer. C'est d'ailleurs pour éviter que cela se reproduise qu'il décide, on l'apprend dans le prologue de la seconde partie, de faire mourir son personnage à la fin de son ouvrage. Je cite « Porque ninguno se atreva a levantar les nuevos testimonios ». Donc si je vous demande d'avoir ces dates en tête, c'est parce que dans la seconde partie du Don Quichotte de Cervantes, le chevalier est confronté à plusieurs représentations de lui-même. Au chapitre 3, le bachelier Sansón Carrasco l'informe que ses aventures ont été publiées et présente au chevalier une première représentation littéraire de lui-même. Par la suite, au chapitre 14, ce même Sansón Carrasco, grimé en chevalier au miroir pour vaincre Don Quichotte en duel et lui faire promettre de rentrer chez lui, affirme avoir vaincu un certain Don Quichotte qu'il dépeint trait pour trait comme le véritable. Et enfin, au chapitre 59, une seconde représentation littéraire de Don Quichotte, bien plus inquiétante cette fois, fait son apparition. Deux lecteurs, Don Juan et Don Jerónimo, ont entre leurs mains la continuation d'Avellaneda. Et Don Quichotte est alors informé qu'il existe, quelque part, un autre lui-même. Et donc, le protagoniste de Cervantes va réagir de différentes façons face à ces miroirs qui lui sont tendus. Et souvent, il s'agit de réaffirmer, voire de redéfinir son identité. Alors, la question qu'on se pose est comment rétablir la vérité sur lui-même. Je ne l'avais jamais envisagé sous cet angle avant qu'on me sollicite pour cette journée, mais effectivement, dans ces épisodes, la notion de vérité est fondamentale. Elle apparaît à plusieurs reprises dans les réflexions menées par le chevalier. Je me centrerai donc sur le texte lui-même, c'est-à-dire sur les différentes occurrences de « verdad » et « verdadero », mais aussi tous les termes qui y sont apparentés, voire ses antonymes. Mais la structure de cette communication renversera quelque peu l'ordre que je vous ai annoncé tout à l'heure. Je commencerai par me centrer sur le chapitre 3, celui où Don Quichotte prend connaissance de la publication du livre racontant ses œuvres, et je poursuivrai immédiatement avec le chapitre 59, ce qui me permettra de comparer avec plus de précision, ses réactions. Et pour terminer, j'examinerai le très problématique « Otro » conçu par le chevalier au miroir. Lorsque Sancho annonce à Don Quichotte qu'un certain Sansón Carrasco a lu la première partie de ses aventures, il enclenche chez lui une dynamique introspective. La succession de verbes qui précède l'arrivée du bachelier l'illustre très bien. Je cite « Pensativo quedo, no se podía persuadir, imagino que, pensar que, envuelto y revuelto entre esta y otras muchas imaginaciones, pardon. » Et enfin, decía entre sí. Le processus réflexif identitaire convertit alors le livre en miroir, tel que le décrit María Losada Friend. Je la cite. El retrato del espejo proporciona un juego arriesgado al personaje que se atreve a asomarse. La identificación y reflexión sobre el propio yo, sobre la conciencia expuesta, implica aceptación o rechazo de aspectos aparentemente conocidos que en cualquier caso provocan un proceso reflexivo de múltiples reacciones. En effet, le protagoniste Cervantin va acquérir, dans les termes de Luis Rosales, la conciencia literaria del personaje literario, et la dimension métafictionnelle de l'épisode en sera d'autant plus importante. Don Quichotte va pouvoir s'observer dans un miroir livresque, ou plutôt dans les yeux de ses lecteurs, dont Sansón Carrasco va se faire porte-parole. Mais va-t-il pleinement s'identifier à ce reflet littéraire de lui-même? Aceptación ou bien rechazo? Dans le cas présent, rien n'indique que Don Quichotte se désolidarise de son image de papier. Le syntagme « esperaba oír nuevas de sí mismo, puestas en libros » invite d'ailleurs à fusionner sa personne avec son image de papier, l'un étant sensiblement confondu avec l'autre. Alors, bien entendu, lorsque je dis « sa personne », je suis consciente du fait qu'il s'agit d'un être de fiction. Donc, il s'agit pour lui d'un alter ego de papier auquel il s'identifie, mais non sans une certaine crainte. En effet, l'idée de se voir « puesto en libro », pour reprendre les termes du narrateur, le tourmente malgré tout. L'attente de Sansón Carrasco, dénotée par un champ sémantique qui exprime la virtualité, on a la triple répétition du verbe « esperar » ou encore « me tiene suspenso », débouche finalement sur un sentiment de crainte, « temíase ». Et inscrivent par conséquent le processus de connaissance de soi dans une sorte d'inconfort. Cette sensation est confirmée par le portrait que Carrasco, extrait du livre et que Don Quichotte estime nuisible à sa réputation. Je vous cite le passage même s'il est un peu long. Con todo eso, respondió el bachiller, dicen algunos que han leído la historia que si Holgarán se les hubiera olvidado a los autores de ella, algunos de los infinitos palos que en diferentes encuentros dieron al señor Don Quijote. Ahí entra la verdad de la historia, dijo Sancho. También pudieran callarlos por equidad, dijo Don Quijote, pues las acciones que ni mudan ni alteran la verdad de la historia no hay para qué escribirlas si han de redundar en menosprecio del señor de la historia. Así es, replicó Sansón, pero uno es escribir como poeta y otro como historiador. El poeta puede contar o cantar las cosas no como fueron, sino como debían ser, y el historiador las ha de escribir no como debían ser, sino como fueron, sin añadir ni quitar la verdad cosa alguna. Nous voilà donc face à une première modalité de la vérité, à trois occurrences du terme « verdad », qui se réfèrent toutes à l'histoire de Don Quichotte. En effet, lorsque Carrasco affirme que les lecteurs auraient préféré ne pas lire les innombrables coups que Don Quichotte a reçus au cours de ses aventures, il pointe du doigt la place de l'omission dans la notion de vérité. Omettre de dire, est-ce trahir la vérité? Par la réponse de Sancho, ahí entra la verdad de la historia, qui peut sembler innocente hein, dans la bouche de l'écuyer, Cervantes ouvre en réalité la discussion épineuse autour de la verdad de la historia. Pour l'étude d'une telle question, nous renvoyons aux brillantes pages dédiées à la verdad de los hechos dans La Teoría de la Novela en Cervantes de Rayleigh, et je vous prie d'excuser par avance ma paraphrase trop synthétique, à laquelle je vais tout de même procéder maintenant. En effet, le passage qui nous occupe reflète particulièrement bien la confusion de toute une époque, qui peut être considérée comme transitoire, autour du concept de vérité historique et de fiction poétique, et qu'Aristote, dans sa poétique, qui circulait à l'époque, a examiné. Je vous cite le passage en question. Le rôle du poète est de dire non pas ce qui a lieu réellement, mais ce qui pourrait avoir lieu dans l'ordre du vraisemblable ou du nécessaire. Car la différence entre le chroniqueur et le poète ne vient pas de ce que l'un exprime envers l'autre en prose, de ce que l'un exprime en vers et l'autre en prose, mais la différence est que l'un dit ce qui a eu lieu et l'autre ce qui pourrait avoir lieu. Donc, on remarque ici la ressemblance évidemment entre la poétique d'Aristote et la réponse du bachelier Sansón Carrasco que je vous ai cité tout à l'heure. En tout cas, ici, chacun a son idée sur la chose. Hein. Tandis que Don Quichotte défend l'omission tant que celle-ci n'altère pas la vérité, dans le but d'assurer sa réputation, bien entendu. Hein. Il s'agit donc finalement d'une sorte de mensonge qui lui rend service sans pour autant porter préjudice à autrui ou à l'histoire. Le bachelier, quant à lui, établit une nette distinction entre la fiction poétique et la réalité historique. Celle-ci est d'ailleurs amenée de façon très subtile, hein, puisque Cervantes procède à une mise en abîme dans ce chapitre, ce qui fait donc que les aventures de Don Quichotte sont historiquement réelles au sein de la fiction. Mais pour en revenir à l'identité de Don Quichotte, le chevalier apparaît, tant pour lui-même que pour les lecteurs, dédoublé en deux images. L'être que Don Quichotte pense incarner et l'être qui est décrit par l'historiador Cide Hamete Benengeli. S'il s'attendait à un portrait littéraire et idéalisant de lui-même, tel que le sont ceux des romans de chevalerie, il se voit confronté à ce que Losada Friend appelle un portrait de miroir, qui le montre, au contraire, tel qu'il est vraiment. Pour ce qui est de la réputation, la réputation étant, selon Melchior Bonnet, une sorte d'écho ou de reflet de miroir renvoyé par autrui qui le confirme dans sa propre estime, Don Quichotte s'efforcera logiquement, par la suite, de parfaire son image et de la défendre opiniâtrement, défendre opiniâtrement également l'identité qu'il s'est forgée. En d'autres termes, sa propre estime ne semble pas suffire et doit s'imposer aux autres, qu'ils soient lecteurs ou qu'ils aient simplement entendu parler de lui. On imagine alors assez aisément pourquoi Don Quichotte entre dans une colère noire lorsqu'il apprend au chapitre 59 qu'il existe une autre version de lui-même qu'il considère immédiatement comme un imposteur. Dans cet épisode, on va le voir, le mensonge et la vérité ouvrent la problématique de l'imposture. Et une fois encore, la notion de vérité est explicitement convoquée à plusieurs reprises. Don Quichotte indique d'emblée que l'auteur bat muy lejos de la verdad, puis se défend en affirmant qu'il est el mismo Don Quijote, Don Quichotte lui-même. Et l'un des lecteurs surenchérira même en l'appelant el verdadero Don Quijote, en opposition à celui qui a voulu usurpar su nombre. Je n'ai malheureusement pas le temps d'évoquer précisément les raisons qui mettent Don Quichotte hors de lui et me contenterai de préciser qu'après avoir feuilleté quelques pages de ce fameux livre, le chevalier conclut que son auteur hierra y se desvía de la verdad en lo más principal de la historia. Si à ce moment-là, le mensonge n'est pas explicitement évoqué. Pour le moment, il est simplement lejos de la verdad, loin de la vérité, et s'en détourne. C'est desvía de la verdad. Pour autant, ça ne tardera pas à arriver. Contrairement à ce qu'avait annoncé Cervantes à la fin de sa première partie, ce qui a d'ailleurs été respecté par Avellaneda, hein, Don Quichotte décide par lui-même à ce moment-là, de ne pas se rendre à Saragosse. Je cite « No pondré los pies a Saragossa y así sacaré a la plaza del mundo la mentira de ese historiador moderno y echarán de ver la gente como yo no soy el Don Quijote que él dice. » Deuxième extrait « Tal era el deseo de sacar mentiroso a aquel nuevo historiador. » La volonté de Don Quichotte n'est pas de desmentir, c'est-à-dire de decir a otro que miente, selon le dictionnaire Covarrubias, de Covarrubias, pardon. Ou même de convencer el dicho de otro de falso, selon le diccionario de autoridades. Il s'agit au contraire de sacar mentiroso, soit, toujours selon le même dictionnaire, ejecutar lo contrario de lo que otro hace, c'est-à-dire de faire mentir l'autre. Et il y a là une différence, car il s'agit d'une manœuvre dont le but est de discréditer l'autre, d'une véritable stratégie qui vise à défendre son identité, à défendre sa vérité ontologique. Mais n'est-ce pas là, assez paradoxalement, une forme de mensonge? La question peut être posée. Du reste, d'autres stratégies sont mises en œuvre par Cervantes et son héros pour discréditer le continuateur et son faux Don Quichotte. D'abord, assez logiquement, une discrimination lexicale et syntaxique vient à opposer les deux Don Quichotte. Quand ils sont tous deux mentionnés, les constructions syntaxiques sont négatives et portent presque toujours sur le verbe essentiel « ser ». Je cite « Yo no soy ». No soy. No sé si soy el bueno, pero sé decir que no soy el malo, par exemple. Quant aux adjectifs, parfois substantivés et employés métonymiquement, en devenant alors caractéristiques de l'un ou de l'autre, alors nous l'avons dit, les deux premiers qui sont employés sont mismo et verdadero, mais ils ne sont pas les seuls à qualifier le personnage cervantin par opposition à l'autre. Dans le chapitre 3 de son Contra Mendacium, contre le mensonge, saint Augustin, qui affirme qu'il ne faut jamais mentir sous aucun prétexte, compare la vérité et le mensonge à d'autres notions antagoniques. La lumière et les ténèbres, je le cite, hein, la lumière et les ténèbres, la piété et l'impiété, la justice et l'injustice, une bonne et une mauvaise action, la santé et la maladie, la vie et la mort. Fin de citation. Dans le cas qui nous occupe, le véritable Don Quichotte est aussi bueno, fiel, soit el que trata verdad y no engaña a otro, mais aussi legal, qui est synonyme de verdadero, j'y reviendrai. Tandis que le héros avellanédien est malo, falso, ficticio, fantastico, et enfin, apocrypho. Donc, le travail lexical autour du syntagme nominal Don Quichotte invite donc à démêler le vrai du faux, et le but est de désambiguiser et de particulariser les deux homonymes. Enfin, il nous faut préciser qu'une autre stratégie permet à Cervantes de pouvoir qualifier son personnage de légal. Hein, c'est l'un des adjectifs que je citais juste avant. En effet, au chapitre 72, avant d'arriver dans son village, hein, où il mourra quelques jours plus tard, Don Quichotte rencontre Don Álvaro Tarfe, qui n'est autre qu'un personnage de la continuation que Cervantes emprunte à son rival et place au sein de sa propre fiction. Dans la continuation, il est même un très grand ami de l'autre Don Quichotte. Donc, au cours de ce chapitre 72, Don Quichotte arrivera à convaincre Tarfe qu'il est le véritable Don Quichotte. Et il lui demandera, je cite, « de hacer una declaración ante el alcalde de este lugar ». Ce que Tarfe fera de muy buena gana, hein, ce qui n'est pas sans ironie. Don Quichotte est donc reconnu, je cite, « auténticamente », c'est-à-dire, si l'on en croit le dictionnaire des autorités, « aprobado por verdadero ». Venons-en maintenant au chapitre 14, où Don Quichotte rencontre un certain Caballero de los Espejos qui n'est autre que Sansón Carrasco. Mais cela, Don Quichotte ne le sait pas, et le lecteur non plus d'ailleurs, hein, du moins pas avant le chapitre 15, le chapitre suivant. En conversation avec lui, l'inconnu se targue alors d'avoir vaincu en duel un grand chevalier nommé Don Quichotte. Je cite. De lo que yo más me precio y ufano es de haber vencido en singular batalla a aquel tan famoso caballero Don Quijote de la Mancha y hechole confesar que es más hermosa mi Casildea, donc Casildea qui est la dame des pensées du caballero de los espejos, que su Dulcinea. Commence alors une profonde réflexion ontologique chez Don Quichotte. Dans un premier temps, le chevalier semble accepter plus ou moins l'éventualité d'une forme d'altérité, bien qu'il établisse déjà une certaine dialectique entre l'essence et l'apparence, lorsqu'il affirme « Podría ser que fuese otro que le pareciese, aunque hay pocos que le parezcan ». Cette idée réapparaîtra tout au long de l'épisode. Je vous cite les passages, mais n'aurai malheureusement pas le temps de les analyser en détail. El que una vez pudo venceros transformado, bien podrá tener esperanza de rendiros en vuestro propio ser. Veuillez m'excuser. Parecéis como se parece un huevo a otro, al mismo caballero que yo vencí, pero según vos decís, que le persiguen encantadores, no sabré afirmar si sois el contenido o no. Et enfin, no fue ni pudo ser Don Quijote de la Mancha, sino otro que se le parecía. Donc, l'emploi du terme otro est en fait suivi dans le texte de trois occurrences de mismo. Aquí está el mismo Don Quijote, par exemple. Ce qui n'est pas sans rappeler les différents adjectifs discriminants que je mentionnais il y a quelques instants. Mais ce qui nous intéresse particulièrement ici, c'est la façon dont les deux chevaliers vont régler la question. Don Quichotte a la volonté de « hacerle confesar por su propia boca su mentira ». Et pour ce faire, les deux hommes sont prêts à se battre. Je cite Sansón. Si todas estas señas no bastan para acreditar mi verdad, aquí está mi espada, que la hará dar crédito a la misma incredulidad. Et Don Quichotte lui répond, si todo esto no basta para enterraros en esta verdad que digo, aquí está el mismo Don Quijote, que la sustentará con sus armas a pie o a caballo, o de cualquiera suerte que os agradare. En d'autres termes, pour rétablir la vérité, Don Quichotte et Sansón vont passer par le duel chevaleresque, que Don Quichotte va d'ailleurs remporter. Par conséquent, la stratégie de Carrasco, qui était de provoquer et de vaincre Don Quichotte en duel pour lui faire promettre de rentrer chez lui en vue de sa guérison, va échouer. Tandis que celle de Don Quichotte, qui vise à rétablir son identité, fonctionnera parfaitement. Todo lo confieso finit par admettre Sansón. Cette double stratégie hacerle confesar por su propia boca su mentira et de régler officiellement la question semble ébaucher la manœuvre du chapitre 72 que j'évoquais juste avant, hein, qui consiste à manipuler le personnage abeyanédien Tarfé afin qu'il prouve par une déclaration juridique la fausseté de la continuation dont lui-même provient, hein, et de l'autre Don Quichotte qu'il a lui-même rencontré et épaulé dans ses aventures. Hein. C'est une stratégie assez problématique. Somme toute, il semblerait que les quatre épisodes que je viens de vous exposer, il semblerait qu'ils se fassent écho. Ils permettent effectivement à Don Quichotte, le protagoniste de la seconde partie, de défendre l'identité qu'il s'est forgée, notamment au chapitre 3, mais également de rétablir la vérité par divers moyens. Nous venons de le voir, hein, le duel chevaleresque, la déclaration juridique, face à plusieurs faux Don Quichotte qui semblent circuler. Mais cette détermination, finalement, elle était à prévoir, puisque dès sa première sortie dans le monde, hein, en tant que chevalier, au chapitre 5 de la toute première partie, donc 1605, Don Quichotte l'avait affirmé. Yo sé quién soy.